Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Si vous avez suivi l'émission précédente, vous comprendrez que nous sommes toujours au milieu du XXe siècle et nous allons progresser dans le temps. Je vous disais précédemment que le monde de l'art, notamment les arts plastiques, explose en faisant tomber toutes les barrières. Nous avons abordé les nouvelles avant-gardes, les groupes importants, Zéro, Fluxus, les nouveaux réalistes. Et globalement, vous avez compris que les artistes plasticiens s'associent à des musiciens, des techniciens, des sociologues. Ils investissent l'espace, notamment celui du quotidien, utilisent des moyens d'expression insolites comme la lumière, les sons, des objets qu'ils mettent en mouvement, composent des scènes, élaborent des scénarios, réalisent des performances, c'est-à-dire des actions, spectacles, etc. Dans ce joyeux délire, l'art conceptuel prend corps, si je puis dire, si tant est que l'on puisse oser dire qu'un art qui néglige l'objet au profit d'une idée ou d'un concept prenne corps. Mais c'est une réalité. Et là, je viens de vous donner une petite idée de ce qu'est l'art conceptuel. Alors, comment s'est-il imposé ? Si vous vous souvenez, je vous ai présenté Marcel Duchamp, dont l'état d'esprit provocateur avait bousculé les codes traditionnels du monde artistique. C'est Duchamp qui détourne un objet ordinaire de sa fonction et de son quotidien pour l'exposer dans un lieu dédié à l'art, le signer de son nom et affirmer ensuite qu'il s'agit là d'une œuvre d'art. Par exemple, présenter un porte-bouteille, ou un urinoir qu'il nomme fontaine, ou encore une roue de bicyclette fixée sur un tabouret. Et ces objets du quotidien ou manufacturés sont nommés « ready-made ». Il est clair que Duchamp veut provoquer et qu'il était et est encore une figure phare pour le monde de l'art conceptuel. Et en effet, de nombreux adeptes s'engouffreront dans la brèche qu'il aura ouverte, et ceci possiblement pour le meilleur, mais également pour le pire. Quoi qu'il en soit, l'art conceptuel affiche de nos jours une belle santé, et c'est de plus la forme d'art la mieux soutenue par l'État. Alors comment se manifeste l'art conceptuel ? L'art conceptuel découle, vous l'avez compris, également d'un état d'esprit. Ici, l'artiste se positionne au centre de la démarche. Il est l'élément clé pour donner de l'importance à une idée, à un concept, voire à l'analyse de l'art devenu objet lui-même, plutôt qu'à un objet fruit d'une création ou d'une démarche artistique. Et si objet il y a, il est là surtout comme détail parmi d'autres objets pour illustrer l'idée. Donc, ce qui veut dire que la théorie prend la place de la pratique jusqu'à arriver à ce que l'artiste ne produise plus d'objets. C'est un mouvement qui naît dans les années 60 et les artistes que je vous ai cités précédemment, par certains aspects de leur démarche et de leur forme d'expression, entrent en résonance avec l'art conceptuel. Et c'est notamment le cas de Yves Klein et même de l'allemand Joseph Beuys. Donc, vous comprenez avec l'art conceptuel que l'objet ne constitue plus une finalité, que les habiletés manuelles ne revêtent plus d'importance, que les frontières qui définissent l'art et l'artiste sont de plus en plus floues, et donc que tout peut devenir art du moment que vous le décidiez, et que l'extérieur composé des institutions et du public sont prêts à l'accepter. Et je me permets de rajouter ceci, car dans certains cas, c'est ce qui s'est passé et perdure encore de nos jours, et même jusqu'à l'excès. Mais nous verrons cela plus tard. Donc, l'art conceptuel propose une réflexion, un cheminement qui permettrait au public intéressé de rentrer dans les méandres de la pensée de l'artiste. Celui-ci se focalise sur un sujet d'étude et de débat, et les objets rencontrés en chemin ne sont plus que des éléments qui auraient une fonction de balise. Alors pour moi, l'art conceptuel est intéressant dans ce sens, à condition, bien évidemment, que le porteur de projet, donc l'artiste, soit pertinent dans sa démarche, ce qui implique des qualités intellectuelles, de raisonnement, puisque tout vient du mental, l'ensemble associé à de l'originalité, avec un thème judicieusement choisi. Et ceci, à mon avis, est absolument indispensable. Mais nous sommes d'accord que la pertinence est valable pour toute forme d'art, selon les spécificités de chacune, mais je ne vais pas maintenant rentrer dans ce débat car il y a beaucoup de choses à dire. Et nous verrons cela plus tard au cours d'autres émissions où j'essaierai de vous apporter des sujets à polémique avec des avis d'artistes et intellectuels célèbres ou impliqués. Alors pour illustrer mes propos, je vais vous donner quelques noms d'artistes et exemples d'art conceptuel que je ne peux vous montrer, mais au moins vous commenter. Le français Daniel Buren est un artiste conceptuel. C'est lui qui notamment s'est distingué avec ses fameuses colonnes qui sont exposées dans la cour du Palais Royal de Paris. C'est l'américain Sol Lewitt avec ses réseaux de lignes blanches et noires et la répétition de motifs géométriques. Ces sculptures également sont constituées de formes géométriques simples. Vous remarquerez que tous deux fonctionnent en noir et blanc, mais ils ne font pas que cela. C'est l'américain Joseph Kossuth dont l'idée principale est de séparer l'esthétique de l'art de manière à ne garder que l'essentiel visible. Par exemple, il pose une chaise contre un mur, accroche à côté une photographie de cette même chaise, plus un panneau explicatif donnant la définition du mot chaise. Alors cette installation montre à la fois l'usage, la représentation et la forme linguistique. Le tout était bien évidemment détaché de l'esthétique. Et il faut savoir qu'à ces époques, la beauté et l'esthétique sont devenues quasiment des formes d'injure, voire insultes pour certains artistes dits contemporains. Je vais citer ce que Joseph Kossuth nous dit sur l'art. Ce que l'art a en commun avec la logique et les mathématiques, c'est qu'il est une tautologie, c'est-à-dire que l'idée de l'art et l'art sont la même chose. Sol Lewitt, lui, dit « L'œuvre n'est qu'une illustration de l'idée ». Maintenant, pour comprendre et peut-être apprécier cette forme d'art, il faut écouter le discours et entrer dans le processus intellectuel de l'artiste, parce que regarder ne suffit plus. Et souvent, dans les expositions conceptuelles, vous êtes accompagné par un médiateur qui vous explique. De toutes les façons, chaque artiste évolue dans un monde bien à lui, qu'il soit conceptuel ou pas, mais la démarche intellectuelle demande une compréhension et donc une explication intellectuelle, et c'est ce qui est nécessaire ici. Alors, dans ces ordres d'idées, un groupe s'est constitué nommé Art et Langage, dont les chefs de file sont des artistes anglais. À la base, il y a Terry Atkinson, Michael Baldwin, David Bainbridge, Harold Durrell. En gros, ils disent que l'utilisation du langage du monde de l'art suffit à faire de l'art. Par exemple, Atkinson et Baldwin ont produit une œuvre en 1968 nommée « Secret Painting » qui signifie « peinture secrète ». Et là, ils exposent un carré noir sur un fond accompagné à côté d'une phrase explicative, et je vous lis ce qui est écrit. Le contenu de cette peinture est invisible. Les caractéristiques et dimensions du contenu doivent être maintenues secrètes, connues de l'artiste seul. Alors pour aller plus loin dans la dématérialisation de l'art, je vais aborder le minimalisme ou art minimal, apparu également dans les années 60 aux États-Unis et dont le terme avait été trouvé par le philosophe analytique anglais Richard Wolfheim. Le minimalisme adopte la maxime d'un représentant du Bauhaus, et vous vous souvenez de ce groupe allemand du début du XXe qui intègre à l'architecture toutes les formes d'art, et c'est donc Mies van der Rohe qui disait « less is more », ce qui veut dire « le moins et le plus ». Alors, c'est un courant qui s'impose en peinture, en sculpture, en musique, en design. Et en design, ben, ce sont des formes très épurées. Alors, le minimalisme en peinture a déjà été impulsé en 1915 par le russe Malevitch, qui s'appuyait sur le principe qu'il fallait libérer la peinture de toute représentation et subjectivité. Et c'est lui qui réalise un tableau avec un simple carré noir sur fond blanc. Comme quoi, libéré, il ne restera plus grand-chose et peut-être même plus rien. Dans ce cas extrême, c'est curieux comme l'art finit par me faire penser à la politique, où tous les courants sont complexifiés à l'extrême, avec beaucoup de blabla et un grand dépouillement dans les réalisations concrètes et probantes. On va dire que c'est dans l'air du temps, que nous sommes proches de la fin du XXe siècle. L'art n'est plus qu'une marchandise comme une autre et ressemble à ses vêtements, à la mode, où moins il y a de tissu et plus c'est cher, et où le nom et donc la marque est suffisante comme gage de qualité après de bons plans marketing. Il y eut d'ailleurs une période fin du XXe siècle où en cuisine nous avons vécu le même engouement minimaliste, si je puis dire. Est-ce que vous vous souvenez de la nouvelle cuisine ? La cuisine est un art, n'est-ce pas ? Vous n'allez pas me contredire ? Certainement pas en Périgord, je pense. Alors concrètement, la nouvelle cuisine a tenu la route jusqu'au moment où ça a déraillé et je me suis pris moi-même mon râteau en son temps, malgré la petitesse de mon appétit. Alors quelle était cette nouvelle cuisine ? Eh bien, vous limitez la quantité, mais pour une saveur raffinée, voire exceptionnelle, le tout joliment présenté pour déjà vous réjouir les yeux avant le palais. Je dis oui. Pourquoi pas si le jeu en vaut la chandelle ? Sauf que, au bout du compte, vous vous retrouviez avec un échantillon pas si goûteux que ça, perdu comme une petite crotte au milieu d'une immense assiette, le tout présenté par un emphatique serveur qui vous raconte une belle histoire. C'était la mode, et quand on dit mode, eh bien on a tout dit, sauf que en deux temps, trois mouvements, la bouchée est avalée, l'extase est ratée, vous restez sur votre faim, mais le porte-monnaie, lui, se retrouve allégé d'autant, et ça, c'est bien embêtant. Bon, je ne crois pas qu'en Périgord, la nouvelle cuisine ait fait recette. À mon avis, ils ont dû se casser les dents, autant qu'on puisse dire qu'avec cette sorte de cuisine, où il n'y a rien à manger, on se casse les dents. Bien, après mes quelques élucubrations contestataires, revenons au minimalisme en art plastique. C'est avec cet état d'esprit que le peintre américain Ad Reinhardt réalisera des séries de peintures monochromes, c'est-à-dire des tableaux composés d'une seule couleur. Je signale également que Yves Klein, dont je vous ai parlé, fut adepte du minimalisme, notamment avec ses monochromes bleus, et qu'il ira même jusqu'à exposer du vide. C'est pour vous dire. Et c'est surtout le peintre américain Frank Stella qui est considéré comme un précurseur du minimalisme en créant des tableaux-objets. Il y montre surtout des lignes régulières en noir de la largeur du pinceau, entre lesquelles apparaît un mince filet blanc. Et l'ensemble se compose également de formes géométriques. Il refuse l'interprétation en art et cherche à dépersonnaliser un maximum l'œuvre d'art. Et il dit d'ailleurs « Ma peinture est basée sur le fait que seul s'y trouve ce qui peut y être vu ». Donc, avec la peinture minimaliste, tout est limité, que ce soit l'action du peintre, la forme, la couleur, pas plus de deux ou trois, et souvent c'est du monochrome. Et en général, on supprime la représentation, on supprime la subjectivité, on supprime tout émotionnel et sentiment, les objets ne sont ni décoratifs, ni monumentaux, bref, c'est le dépouillement extrême qui peut aller jusqu'à l'absurde. Et pour moi, c'est aussi majoritairement un art de la provocation. Alors, en sculpture, les formes sont totalement épurées, les matériaux sont simples et laissés bruts, aucun artifice, aucun émotionnel ne doit transparaître dans une forme dont l'essentiel est de dire « c'est une sculpture » parce que l'objet est là, considéré comme tel. Et les artistes sont notamment des Américains, donc Donald Judd qui présente des parallépipèdes métalliques identiques, Dan Flavin et ses tubes de néon blanc ou couleurs qui leur donnent en structure linéaire géométrique, Carl André qui présente des cubes en matériaux bruts comme la brique ou le bois. Et Aïda s'en étouffe, on dirait, j'ai l'impression. Bon, je reprends. La musique n'échappe évidemment pas au minimalisme et c'est même pour moi difficile de dire qu'il s'agit de musique lorsque un son est émis suivi d'un silence impressionnant. Et c'est l'avant-gardiste américain John Cage qui a d'ailleurs bien influencé ce courant. En général, on entend surtout des bourdonnements, des répétitions, des sons lancinants. Et les artistes représentatifs sont les Américains, Lamonté Young, Steve Reich, Philip Glass, Terry Riley, pour ne citer qu'eux. Et d'ailleurs, pour vous immerger dans l'ambiance et vous donner quelque chose à vous mettre quand même dans l'oreille, je vous propose une composition de Steve Reich, qui est l'un des pionniers du mouvement minimaliste. Et il s'agit d'une œuvre datée de 67 qui se nomme « Pianophase ». Pour parler d'un autre groupe émergent fin des années 60, je citerai Support Surface, qui naît en France dans les environs de Nice, où ces artistes, eux, se préoccupent surtout de la relation entre la matière peinture et le support ou la surface qui la reçoit et accorde autant d'importance aux matériaux, à l'action de faire qu'au résultat final. Donc, leur réflexion se porte plutôt sur le matériau et le sujet, c'est la peinture elle-même en tant que médium. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils cherchent surtout à provoquer une expérience visuelle et que le débat s'axe surtout autour du faire. Et parmi ces artistes, vous trouvez Claude Viala, Patrick Sétour, Daniel Dezeuse, par exemple. L'esprit ici est également révolutionnaire, anti-académique, dans l'air du temps puisque le vent de mai 68 a soufflé, mais globalement, ces artistes essaient de retrouver un état proche du primitif et de l'originel, en écho d'une certaine manière aux arts dits primitifs et au mythe du Robinson, obligé de se débrouiller avec les moyens du bord. Et cela transparaît également dans le choix de matériaux simples, rudimentaires, comme la toile, les filets, du bois flotte, des bâches, etc., qu'ils manipulent pour les mettre en contact avec la matière peinture. Alors concernant Claude Viala, lui par exemple, il compose avec de la peinture des formes neutres qu'il répète sur une toile libre, c'est-à-dire sans châssis. Et son principe, c'est donc la répétition de cette forme simple à développer dans l'espace sans qu'il y ait modification de la forme picturale primitive. Apparaît également le land art. Alors là, il s'agit d'une forme d'art aussi tout à fait insolite et nouvelle, puisque la création s'intègre au paysage et à l'environnement, qu'il soit urbain ou naturel. Et depuis quelques temps déjà, au XXe siècle, les artistes étaient sortis du musée, ont investi des espaces urbains pour créer des événements. Et maintenant, ils s'intègrent dans le paysage de manière éphémère, mais aussi pour la durée que leur donnent les éléments naturels pour le faire, c'est-à-dire les conditions climatiques, les érosions, etc. Alors c'est du monumental, hein, et même davantage, puisque sont mobilisés des moyens techniques et physiques souvent très importants. Les matériaux, ben, ce sont souvent des matériaux naturels empruntés à l'environnement, mais pas toujours. Et le terme land art est apparu en 1969, justement pour caractériser ces créations qui transforment et modifient un lieu, en général naturel, et souvent à très grande échelle. D'ailleurs, un artiste land art nommé Robert Smithson disait d'un autre artiste: au lieu d'un pinceau pour exercer son art, Robert Morris préférerait un bulldozer. Eh bien, c'est ce qui se passe. Et je vais vous donner quelques exemples de réalisation. Bon, déjà, vous avez le bulgare Christo, qui, lui, au lieu d'emballer les filles, emballe les monuments. Ben, j'espère, moi aussi, vous emballer avec ce que je raconte. Et je le fais sérieusement, dans le but de vous éclairer sur les mystères de la création artistique et vous aider à vous diriger au mieux dans les méandres de l'art du XXe siècle. Alors, pour en revenir à Christo, il a notamment emballé le Pont Neuf à Paris, le Reichstag de Berlin, hein, qui est le parlais du Parlement allemand, entre autres emballages. Bon, j'ai aussi fait allusion à Christo sur l'émission 8 de La Voix des Arts. Et là, il est classé artiste land art parce qu'il intervient sur le paysage et à grande échelle, même s'il le fait également dans des villes et en utilisant les matériaux transformés par l'homme. Un autre exemple, c'est l'Américain Robert Smithson, qui a réalisé, entre autres, en 1970, une œuvre nommée Spiral Jetty. Alors là, par contre, il a utilisé des matériaux naturels et il a choisi un lieu dont la nature a été exploitée par l'homme et laissée en désuétude. Et son objectif, eh bien, c'est de redonner vie à des lieux abandonnés. Alors dans ce cas, et pour réaliser son projet qui était d'intégrer un tourbillon naturel dans le lac d'Utah aux États-Unis, il a mobilisé 6783 tonnes de terre, des pierres, de l'eau, de la vase, des cristaux de sel, 625 hommes, plus matériel, camions, bulldozers, etc. Et la réalisation finale, ben, c'est une spirale un peu comme celle d'un escargot, mais plat, qui mesure 450 mètres de long pour un diamètre donc de 4,50 mètres de large. Alors, qu'est devenue cette création ? Eh bien, elle a été recouverte par l'eau et puis elle apparaît de temps en temps. Alors, que disait Smithson par rapport au lieu et à Spiral Jetty ? Je vais vous le lire. Comme je regardais le site, il se réfléchit sur l'horizon pour ne suggérer qu'un cyclone immobile, tandis que le paysage tout entier semblait trembler dans la variation de la lumière. Un séisme assoupi se propagea dans cette quiétude trépidante, créant une impression de tournoiement dépourvu de mouvement. Ce site était un système rotatif s'enfermant sur lui-même dans une immense rotondité. Et de cet espace giratoire émergea la possibilité de Spiral Jetty. Et vous voyez que pour Smithson, la réalisation de son œuvre était évidente. Un autre artiste américain land art nommé Patrick Daugherty, lui, s'intègre dans le paysage naturel avec les matériaux locaux. Là, il crée des figures insolites, des abris ou des maisons aux formes originales desquelles on s'attendrait voir sortir des élémentaux, c'est-à-dire ces êtres mythiques genre fées ou magiciens. Alors le matériau employé est végétal, puisqu'il s'agit surtout de branches issues d'un bois souple comme le noisetier, l'érable, le saule. Il les tresse, il les assemble pour former ces structures. Alors, comment lui est venue l'idée ? Eh bien, c'est en regardant les oiseaux faire leur nid que cette idée a émergé. Et il a commencé à s'exprimer, surtout donc dans les années 80. Et depuis, bah, il ne cesse de parcourir le monde pour construire ces structures qui, moi, me plaisent parce qu'elles s'intègrent naturellement et harmonieusement dans la campagne en y apportant une touche d'étrangeté. Donc, à part ces trois artistes, eh bien, bon, bien d'autres s'exercent au Land Art. Hein, et parmi les plus connus, c'est le Britannique Richard Long, l'Américain Denis Oppenheim, le Bavarois Neil Udo, etc. Bien, ben, nous allons clore ce chapitre avec une petite découverte. Nous restons dans le monde aérien des oiseaux, histoire de terminer avec légèreté sur ce qui a été traité avec sérieux quand même. Et il s'agit d'une œuvre musicale composée à partir d'une photo qui représente des oiseaux réellement posés sur des fils électriques, comme les notes le sont sur une portée. Et c'est la base de la composition de cet auteur nommé Jarbas Anneli, qui a posé ses notes sur ses oiseaux et en a fait ressortir une mélodie. C'est quand même assez amusant. Et c'est insolite, hein, cette collaboration entre un musicien et des oiseaux. Et la pièce se nomme, alors là je vais essayer de prononcer en anglais, Amazing Music by the Birds on the Weir. Waouh, weir, est-ce bon? J'écorche tout, mais bon. Vous avez compris hein, que c'était une musique par les oiseaux sur les fils, voilà. J'espère que bah, ça vous a séduit. Nous arrêtons ici l'émission parce que le temps passe très vite, mais nous n'en avons pas fini avec le XXe siècle que j'aborderai encore, mais dans l'émission prochaine. En attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne digestion de ce sujet de plus en plus complexe en idées, concepts ou courants, qu'il se simplifie en savoir-faire traditionnel et en aspect visuel, tout en s'imposant avec le format. Et ceci au fur et à mesure que nous avançons dans le temps et que nous nous rapprochons du XXIe siècle. Et au plaisir de vous retrouver sur La Voix des Arts à Radio Libre Périgord.